Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus, l'émission Kick un coup, le magazine de la moto tous les dimanches de 11h à midi. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du mois. Et donc, comme chaque deuxième dimanche du mois, c'était notre ami Guy Pilarczyk qui animait cette émission. Lui, il est, vous savez, il est spécialisé dans le tout-terrain et l'enduro. Hélas, hélas, notre ami a eu un souci. Je sais qu'il est alité, là, il doit nous écouter. Il est allongé dans son lit, il a une sciatique qui lui fait mal depuis plus d'une semaine. Donc on lui en veut pas, hein. Nous souhaitons que tu vas pouvoir te remettre rapidement et nous pensons à toi. On devait aussi avoir un invité prestigieux, un baroudeur, un mécanicien aventurier ou un aventurier mécanicien. Nous espérons l'accueillir très prochainement. Il a déjà fait plusieurs Africa Race. Donc ça serait sa quatrième édition. J'espère que nous pourrons avoir son témoignage prochainement. De même, nous allons avoir depuis le Qatar, je suis sérieux, notre envoyé spécial Gilles Fania, hein, bien connu pour sa passion pour le Superbike, le Supersport et là l'endurance. Donc pour la dernière épreuve du championnat du monde d'endurance, il est allé au Qatar et il nous passera un petit coup de fil pour nous donner les résultats en direct. Vous voyez, on se coupe en quatre quand même pour vous donner toute l'information. La preuve, c'est que vous avez également la Miche, notre vedette nationale. Je sais pas si vous avez vu l'article dans Moto Journal. 2 pages sur la Miche, ça y est, là, maintenant. C'est une vedette. Ils vont nous le voler, hein, je te le dis. Hein. Ils vont nous le voler. La Miche va donc nous appeler aussi du Palais des Grottes, où il y a une bourse aujourd'hui jusqu'à 18h. Et il nous fera une interview du président. Nous avons d'ailleurs un stand à cette manifestation. Si vous avez l'occasion, vous pouvez y aller. Il y a de très belles pièces de moto anciennes. Et enfin, parce que c'est quand même un programme chargé aujourd'hui, nous avons également Monsieur Bruno Perlinski qui va venir nous rejoindre vers 11h30-35. Parce que avec la vie de la moto, il a un stand au salon Moto Légende. Et où il va avoir un événement, 2 pilotes, les 2 derniers pilotes qui ont conduit des triomphes sur un circuit en France seront présents sur leur stand à l'occasion du Salon Moto Légende. Il viendra nous en parler tout à l'heure. Vous voyez, un programme très chargé. En attendant, c'est Laurent qui va nous mettre de la musique.
Yeah.
Vous êtes bien sur Radio Campus, ça c'est du rock'n'roll, merci Laurent. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Bruno Perlinski. Me permets-tu de t'appeler Bruno? Moi c'est Fred, hein, si tu veux. Donc tu es venu nous parler du stand, c'est ça, des oui. Amis de la moto que tu as sur le salon Moto Légende qui a lieu le week-end prochain, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc avec les gars du club, là, on a eu un projet un petit peu fou. C'était d'inviter les derniers pilotes Norton, les pilotes anglais, donc qui ont couru avec les John Player. Et donc on les a contactés et ils ont été enthousiasmés et ils répondent présents. Donc le week-end prochain, ils seront sur notre stand. On a aussi trouvé une moto d'usine, une John Player. Et puis on est très très fiers de vous les présenter, ainsi que la moto, donc un motosalon, stand C55.
D'accord. Comment s'appellent les pilotes déjà ?
Donc Peter Williams, donc c'est un ingénieur pilote chez Norton. Hein, c'est le premier qui a couru donc avec des freins à disque, qui a dessiné ses roues à bâtons en magnésium et qui a couru avec. Hein. À l'époque, les autres pilotes lui ont dit « tu feras pas un tour au Touristrophie avec tes roues ». Et il a non seulement fait toute la course, et en plus il a gagné donc avec son artère matchless à l'époque.
Bravo.
Ouais.
Et l'autre pilote c'est ?
Et Dave Croxford, donc c'est un pilote anglais aussi, très très populaire là-bas sur les petits circuits, qui a continué donc à courir sur les John Player. Donc il est surtout connu pour ses 168 chutes en moto, sans aucun os brisé, rien du tout quoi.
Formidable. Un ovni.
Voilà.
Tu disais que c'était le stand.
C'est les Amis de la Moto, donc c'est un petit club du coin. Hein, et on va dire qu'on, dans cette aventure, on a contacté donc tous les clubs du coin, le Caïman, les Vieux Clous, la radio. Et puis donc tout le monde était enthousiaste sur ce projet-là et tout le monde nous donne un coup de main.
J'ai vu aussi qu'il y avait le club Triton de France et le club Norton France aussi.
Oui. Donc, comme c'est de la moto anglaise, on a contacté tous ceux qui étaient susceptibles de pouvoir nous aider. Et comme je te disais, tout le monde a été enthousiasmé sur le projet. Et puis voilà, donc on va tous se retrouver là-bas sur Motosalon. Et de plus, le stand qui est tout juste à côté de nous, c'est le Triumph Owners Club. Eux ont voulu faire un petit peu pareil que nous et ils ont récupéré la Triumph 3 cylindres qui a gagné au Bol d'Or en 71 et ils ont invité les pilotes, donc Paul Smart et Percité, et ils seront là aussi, donc tout juste à côté de nous.
Formidable ça, donc
c'est
ça va,
terrible.
Ça va générer du monde.
On espère,
durant le salon. Ils font quoi les pilotes? Alors ils vont faire des dédicaces
Oui, donc il y a Peter Williams qui a fait un livre, hein, qui raconte un petit peu tout ce qu'il a fait donc chez Norton et puis en course, et donc il sera là pour dédicacer son livre.
C'est en anglais, il traduit en français?
Ah ouais, malheureusement c'est en anglais.
Donc si on veut le discuter un peu avec eux, c'est forcément en anglais alors?
Ouais, bon on est beaucoup là-bas sur le stand à parler anglais, donc il y aura pas de souci pour traduire. Hein.
Vous avez prévu des traducteurs?
Ouais, on est tous, tu sais, quand tu roules en anglaise, à force de lire les revues techniques, après tu parles anglais. Hein.
Tu trouves peut-être pas ton chemin en Angleterre, mais en tout cas tu sais lire une revue technique en anglais. Si tu vas rester avec nous quelques instants, on va passer un petit morceau de musique et on se retrouve tout à l'heure.
D'accord.
Do it!
Vous êtes bien sur Radio Campus, l'émission Kikinkou, le magazine de la moto. J'ai le plaisir, l'immense plaisir, le privilège même, devrais-je dire, d'accueillir Jérôme Elena, je dis Monsieur Jérôme Elena, 7 Paris-Dakar, c'est ça déjà?
C'est ça, oui, hein, bonjour à tous.
Franchement, ça, tout de suite, hein, ça force le respect, moi je dis.
Non.
Et il vient aujourd'hui parce que il va participer à la 4e édition de l'Africa Race en tant que mécanicien aventurier ou aventurier mécanicien, je sais pas bien, il nous le dira peut-être tout à l'heure. Et mais c'est la première édition, je crois que toi tu.
Voilà,
tu...
moi sur l'Africa, ça sera la première fois que je participerai. Donc c'est la 4e édition de ce rallye et puis pour moi, ça sera la première. Après cette Dakar.
Mais bon, tu vas pouvoir utiliser toutes tes compétences et ton expérience développée sur les Paris-Dakar.
Voilà, en fait, parce que les deux derniers Dakar que j'ai fait en Amérique latine, sinon tous les autres, je les fais en Afrique. Et puis l'Africa, c'est vraiment les Dakar d'autrefois, quoi. Donc on ne sera pas du tout dépaysé.
C'est-à-dire d'autrefois.
En fait, dans le temps, c'était vraiment les vieux Dakar. C'était la course qui démarrait du bivouac, l'arrivée se faisait dans le bivouac. Pardon, alors que les Dakar actuels, en fait, il faut faire une liaison de 80 ou 100 km avant de vraiment prendre le départ, donc on quitte le bivouac. Donc là, c'est vraiment les Dakar d'autrefois, dans le temps, et c'est moins la course à l'armement, quoi. C'est vraiment des Dakar où on peut retrouver vraiment des salariés, alors que maintenant, les Dakar de maintenant, c'est vraiment des gens qui ont les moyens, quoi. Faut pas avoir peur de le dire, c'est comme ça. Donc on va retrouver vraiment sur cette course-là, sur l'Africa Race, des gens... issu de tout milieu, on va dire.
Et tu es donc mécanicien pour des pilotes, c'est ça?
Oui, alors en fait, ce qui se passe, comme pour les précédents Dakar, c'est des teams, en fait, des gros teams qui engagent des mécanomotos de métier et qui vendent, en fait, après des prestations de mécanique à des concurrents, en fait, qui cherchent à faire entretenir leur machine, quoi.
D'accord.
Donc là, c'est le team Nomad Racing dans les Vosges qui m'engage cette année. Et ils ont chez ce team-là 5 motos et un quad d'engagés. Donc c'est souvent 2 machines par mécanicien. Donc à savoir que nous on fait la mécanique la nuit, hein, puisque donc le soir en fait, en fin de journée quand les machines rentrent, nous on commence à travailler dessus. Et puis au petit matin quand les machines sont finies, les pilotes se réveillent. Prennent leur machine et s'en vont pour la journée, quoi.
Donc vous dormez le jour, quoi, c'est ça?
Oui, c'est ça en fait, le jour pendant la liaison, hein, donc parce que nous pareil il faut qu'on se déplace,
hein, bah ouais,
chaque donc une fois
vous déplacez en 4x4
en camion, ouais,
en camion.
En fait on a, ça dépend les teams, hein, mais l'année dernière dans le gros team dans lequel j'étais, c'était vraiment une grosse structure. Donc on a plusieurs camions et plusieurs 4x4 parce qu'on est du monde. Là cette année en fait il y a un camion et deux 4x4. Donc je serai dans le camion en fait et puis donc.
Et vous dormez dans le camion là.
Ouais, on dort dans le camion. Ouais. Donc en fin de nuit en fait, une fois que les machines sont terminées, on range toutes les affaires parce qu'on déballe énormément de matériel. On se fait la petite toilette et puis on va vite dans le camion pour rallier parce que selon les jours on a 600, 700, 800 km à faire avant le point. D'étape suivante, quoi. Donc nous on prend pas du tout le même circuit en fait que les pilotes, hein. On prend vraiment la route.
D'accord.
Donc c'est beaucoup plus facile quand même pour nous, et heureusement.
Mais quand vous, il y a des morceaux de désert quand même.
Ah oui, tout à fait, hein. Ouais, c'est de la piste, quoi. Hein. C'est de la piste, mais on prend pas les cordons de dunes avec du sable mou et tout, hein. Donc on fait des crochets et ou alors on tire tout droit pour aller directement au point suivant, alors que les pilotes font des boucles et des crochets pour jusqu'au soir, quoi. Et donc arrivé le soir, en fin de journée plutôt, on redéballe vite notre matériel et on attend les machines qui arrivent. Bien souvent on est arrivé avant eux et puis dès les premiers motos ou quads qui arrivent, et ben c'est parti pour une restauration complète de la machine jusqu'au petit matin.
Yeah. Vous êtes bien sur Radio Campus. Jérôme, qui est mécano sur l'Africa Race, va nous parler de cette ce rallye, on va dire. Hein. C'est un rallye, c'est
ouais,
ça?
Tout à fait, c'était le rallye. Hein, qui fait pas partie du championnat du monde des rallyes, hein, mais parce qu'en fait, pour la petite histoire, en fait, c'est Hubert Auriol qui a créé cette course parce qu'il était directeur technique avant chez ISO pour le Dakar. Et il y a eu une petite prise de bec entre eux, en fait. Et puis, je pense, pour les embêter, on va dire, il a voulu monter sa propre course qui repart en Afrique. Et pendant les mêmes dates que le Dakar, pour un petit peu embêter, pour pas dire emmerder le Dakar, quoi.
Oui, il revient à ses premiers amours.
Voilà,
aussi.
Il revient à ses premiers amours. Et puis bon, d'ailleurs, ça s'est mal passé parce que tu penses bien qu'une grosse course et un gros truc comme ISO ont porté plainte, bien sûr, sur ce truc-là. Donc il a dû remettre plutôt son grand copain René Medge sur le rallye. Donc en fait, René Medge est directeur sportif. Le directeur général de l'épreuve, c'est Jean-Louis Drone. Et il y a quand même Hubert Auriol qui est pas loin, mais on ne le cite pas, quoi, parce qu'il a normalement plus officiellement le droit d'être dans l'épreuve.
Tu le connais bien, toi, t'as déjà travaillé avec lui?
Bon, on les voit, en fait, ouais. Hein, sur les courses, et puis ben, c'est des gens vraiment charmants, quoi, des gens comme nous, et on peut leur parler, c'est vraiment des gars extra, quoi, hein, qui ont la même passion que nous, donc on parle de la même chose, et puis voilà. Donc sur la course, en fait, donc ça sera du 27 décembre au 8 janvier. Donc le 27, c'est les contrôles techniques et administratifs à Château-Latour. Ensuite, le 28, on prend la route et pour Almeria, en Espagne, pour aller prendre le bateau. Le 29, en fait, on débarque et puis on s'en va. La course démarre vraiment dans la foulée. On traverse donc bien sûr tout le Maroc. Il y a au sud du Maroc qui aura déjà la première journée de repos dans la région de Dakhla, au sud donc du royaume du Maroc, et avant d'entamer les grands cordons de dunes mauritaniens qui sont vraiment magnifiques. Et donc là, l'épreuve va vraiment se corser arriver en Mauritanie. Et ensuite, on traverse la Mauritanie pour aller au Sénégal.
Et toi, tu as l'occasion quand même de voir un peu le parcours, même tu disais tout à l'heure que vous forcément vous pouvez pas utiliser le parcours des pilotes, puisque vous devez arriver au bivouac avant, mais tu vois quand même une partie du parcours.
Ce qu'il y a de très bien, c'est que justement, en assistance, quand on prend les pistes, on traverse énormément de villages africains typiques. Je me souviens même d'années où on avait traversé des immensités de baobabs, et on voit vraiment, on découvre l'Afrique en plein jour, c'est vraiment vraiment magnifique, quoi. Ouais, quand on dort pas dans le camion, on a le temps de regarder. Et puis non, c'est vraiment extra. On est très 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 bien accueillis. Bon, par contre, quand on traverse des grosses villes en Mauritanie, en fait, on est perçu comme des gens ayant des moyens par les locaux.
C'est vrai qu'il y avait des moyens qui étaient déployés dans les.
Donc bon, dès qu'on s'arrête, on est assez assailli par les gens et puis ils nous demandent un cadeau, quelque chose, ils aiment qu'on leur lâche quelque chose, quoi, un t-shirt, une casquette, n'importe quoi, ils nous demandent.
C'est prévu par les organisateurs, non?
Non, c'est toi. Si t'as envie, de toute façon, les t-shirts, tu les changes tous les jours et puis donc tu les donnes, quoi, c'est des t-shirts publicitaires ou. À l'enseigne du team, donc bon, tu les donnes et ils sont contents, quoi.
Je suis allé une fois au Burkina Faso, ouais. À Ouagadougou, et il y a une année, le Paris-Dakar bivouaquait là.
Ouais.
Donc on est allé faire un tour, on pouvait voir les machines, hein, quand même.
Ouais.
Et on a discuté avec quelques pilotes, et je me souviens que c'était une expérience assez intéressante, quoi, de rencontrer comme ça ce que j'appelle des aventuriers du temps moderne, parce qu'il faut avoir une condition physique, mais monstrueuse, quoi, pour pouvoir faire un rallye comme ça. C'est des sportifs de haut niveau, quand même.
Bien souvent, même le petit particulier, il s'entraîne toute l'année en moto, en enduro. Donc, si ça demande une condition physique vraiment, vraiment élevée.
Tu nous parleras des rencontres que tu auras pu faire tout à l'heure après ce morceau de musique. Je te remercie. Here comes another party angel on my way. Time to fly. She walks into the room with a smile. Hey, I'm looking for you. She had a way.
The place is getting hot as you're dancing as the queen on the floor. You put a spell on me, girl. You're right on top of my gold world. Dream it again, dream it right. We gonna be partying on through the night. When the light comes out, I'm lost and found.
Quincoute et Toupal, le magazine de la moto tous les dimanches. Nous allons retrouver notre ami, notre vedette nationale, devrais-je dire, l'Amiche au Palais des Grottes à Cambrai.
Oui, bonjour à tous. Bon, il faut pas exagérer quand même, hein, faut arrêter un peu quand même. Hein.
Non, mais moi j'aimerais bien que dans 30 ans j'ai aussi ma photo dans Moto Journal. Moi, ça me plairait beaucoup, ma foi.
Tu demandes à Thierry Bisbag, il va te faire un petit portrait.
Il va me tirer le portrait, Zach Denis.
Ouais, il va te tirer le portrait.
Donc là, tu es au Palais des Grottes, c'est ça?
Exactement, comment tu sais? Eh bien, écoute, oui, effectivement, je suis avec Benoît Paul, le président du motoclub de Cambrai. Donc, pour cette 21e bourse de pièces et motos anciennes. Benoît, bonjour.
Eh bien, bonjour à tous.
Bon, les portes sont ouvertes à 9h ce matin. Est-ce que tout va bien?
Tout va très bien, le parking moto à l'extérieur est plein, donc il y a une très belle animation à l'intérieur, ça fonctionne comme on le désirait.
Donc l'entrée, ben, je rappelle, c'est gratuit, c'est toujours sympa de dire que c'est gratuit.
C'est important, c'est important.
C'est toujours gratuit, donc tout le monde est le bienvenu, il n'y a aucun souci.
Il y a une petite exposition de motos hein, juste à l'entrée, peut-être que tu peux nous en dire deux mots.
On a sélectionné quelques thèmes, donc des cyclos anciens, parce qu'on fait toujours une balade le 1er mai en cyclo. On a des motos anciennes, donc des années 30, principalement en moto française. On a des classiques, évidemment, toutes les marques européennes que tout le monde connaît, hein, Guzzi, Ducati, Triumph, BSN, Orton. Ensuite, on a des machines de piste, très belles machines de course, TZ. On a la dernière moto bécane de course de chez Moto Bécane. Et un stand motocross également, avec une machine extraordinaire des années 70, motocross dont on parlera d'ailleurs plus tard, du fait que nous sommes pas loin de Neuilly où un cross à l'ancienne sera bientôt organisé et auquel on participe.
Bon, Bon, Benoît, cette journée, c'est toujours une journée de convivialité hein, pour les motards, de se retrouver, hein, c'est très sympa. L'année passée, cette bourse n'a pas eu lieu, il faudrait que tu nous en dises deux mots.
Ah non, l'année passée, on a fait un break, bon, on était partagé entre les anciennes et les modernes, et cette année, il n'y a plus de modernes, les modernes ne désirent plus venir à cette bourse, donc... On a occupé la place avec la bourse et l'expo. Donc, c'est uniquement ancienne et classique. Mais l'ambiance est toujours aussi bonne.
Très bien. Bon, donc, jusqu'à 17h, hein, je crois. Hein,
voilà. Jusqu'à 17h non-stop.
Il y a de quoi se restaurer, aussi se désaltérer également.
Sans problème, tout est sur place.
Avec des prix motoclub du Cambrésis.
Ah bah les prix motards, on va dire.
Merci Benoît, et puis bonne journée hein, pour cette 21e bourse hein, de Cambrai.
Il y a la Miche.
Oui.
Je crois qu'il y a un stand Kikinko aussi là-bas au Palais des Grottes.
Alors effectivement, il y a aussi un stand Kikinko, et vous pouvez acheter des horloges, vous pouvez acheter des cartes postales, vous pouvez vous inscrire pour le calendrier 2012, vous pouvez aussi déguster une bonne bière, hein, vous savez la bière Kikinko, la fameuse bière à la jonquille, et puis il y a plein d'autres choses, et puis à nous aussi, hein, Luc.
D'accord, ok, ben on va voir ça tout à l'heure peut-être.
Bon, nous, on se retrouve d'ici une dizaine de minutes avec Alain Deloge, le président du motoclub de Neuilly.
D'accord, qui va nous parler de la manifestation, donc.
Ça vous convient ?
Très bien. À tout à l'heure, l'ami.
Impeccable, alors. Allez, musique.
Ciao.
Painting up.
Vous êtes bien toujours sur Radio Campus. On retrouve Jérôme Elena, le mécanicien aventurier du prochain Africa Race. Dis-moi, comment devient-on mécanicien sur un rallye moto comme ça, qui t'a fait rêver tous les gamins, un truc comme ça? Comment t'as fait, toi?
Alors, moi, comment j'ai fait? Bon, déjà, il faut être malheureusement un ancien mécanicien de profession, sans prétention connu et reconnu. Moi, j'ai postulé pendant des années dans des teams vraiment diverses. Pour qu'ils me prennent, en fait, hein, comme mécanicien.
T'envoyais une lettre, c'est ça?
Ouais, t'envoies, t'appelles, t'arrêtes pas de les appeler.
Comme si tu cherchais un boulot, quoi.
Ouais. Et bon, donc, en fait, les premiers Dakar qu'on a fait, en fait, mon patron l'ayant fait en 2002, 2003, 2005, je suis d'abord parti la première fois. En fait, à l'époque, on pouvait venir uniquement à la journée de repos. Pour restaurer complètement la moto. Donc sur le 2002, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Sur toute la course, mon patron Dominique Marquand faisait sa mécanique lui-même, et je prenais l'avion uniquement pour aller à Attar en Mauritanie à la journée de repos pour restaurer vraiment de A à Z la moto. Donc j'ai commencé comme ça, et en étant dans le team, en étant sur le rallye. Tu vas voir les teams que tu as contactés, et puis tu leur dis, bah, je suis là, mais je suis là que pour la journée, c'est moi qui est sans cesse vous avez play et tout. Et ensuite, c'est Eric Croquelois, surnommé Croquette, qui m'a pris sur un rallye complet, et il est allé voir un gros team qui s'appelle MD Rally Sport, qui est à Villedieu-les-Poêles, et qui a dit « Je prends ma prestation chez toi, mais j'amène mon mécanicien. » Parce que c'est quelqu'un que je connais et je suis sûr de lui. Donc en fait, c'est grâce à ça que je suis rentré dans ce gros team, MD Rally Sport. Et comme ils ont vu ce que je valais, quoi, toujours sans prétention, franchement, et ben, depuis ce temps-là, hein, ça, chaque année, ils m'ont appelé et je suis tout le temps parti avec eux, quoi. Donc ce team-là a vendu la section moto et quad, parce qu'en même temps, ils faisaient de la voiture, et ils se sont développés énormément en voiture. Du coup, j'ai cherché d'autres teams, et donc je suis maintenant avec le team Nomad Racing. Donc comment on fait pour devenir mécano sur le rallye? Bah déjà, faut vraiment être connu dans le domaine de la moto et comme mécanicien, et puis aller sur les terrains de circuit, enfin sur les terrains de cross, sur les circuits, le Zen, Carole et compagnie, et puis... se faire connaître, quoi, et postuler.
Et avant, t'as commencé, t'as fait une formation professionnelle, c'est ça, dans un...
Je suis mécanicien, voilà, tout à fait. Je suis mécanicien moto, j'ai commencé en 1983. Donc, on s'inscrit dans un CFA, un centre de formation des apprentis. Donc, il faut trouver donc un employeur et s'inscrire dans un CFA et démarrer un apprentissage.
Donc, c'est une formation en alternance, c'est ça, la moitié du temps au centre de formation, où là, on va plutôt un peu de théorie, etc.
Voilà.
Et puis ensuite, l'autre moitié du temps chez l'employeur, voilà, qui normalement est censé t'apprendre le boulot.
Le métier, exactement.
Donc, concrètement.
Moi, en 83, j'avais une semaine de la première année, hein, une semaine d'école, une semaine de boulot. Et ensuite, la deuxième année, c'est 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Et puis, donc ça, c'est sur 2 ou 3 ans, selon si tu fais un CAP. Moi, à l'époque, c'était que CAP et BEP. Maintenant, c'est bac pro et tout, mais en 83, ça n'existait pas. Hein.
C'est un bac pro en 3 ans maintenant, c'est ça?
Ouais. Donc, il y a même en 2 ans, ouais, c'est assez... Maintenant, il y a des trucs... Enfin, je suis plus depuis le temps, mais tu passes par un CFA, quoi. Et puis, un centre comme les apprentis boulangers, machin, apprentis mécaniciens moto.
Mais ça va pas être facile quand même de trouver un maître d'apprentissage.
Voilà, ouais, déjà, ouais, il faut tomber au bon moment, parce qu'ils ont souvent des apprentis, donc il faut tomber soit quelqu'un qui veut vraiment démarrer avec un apprenti, ou attendre qu'un apprenti finisse son contrat dans l'entreprise et qui n'est d'ailleurs pas pris, et pour pouvoir prendre sa place, quoi.
T'en as déjà formé, toi, des apprentis?
Ah oui, plein, énormément depuis. Ouais. Donc en fait, ouais, en 83 j'ai commencé, en 83-85 j'étais embauché, et puis depuis 85, ouais, on en a vu une paire passer, quoi. Donc ouais, tout à fait.
Ouais, c'est bien que tu puisses transmettre tes compétences quand même exceptionnelles avec toutes tes participations.
C'est difficile de trouver des apprentis motivés en mécanique. On a beaucoup de jeunes qui viennent chez nous parce qu'ils aiment la moto, mais ils aiment moins la mécanique, ce qui est complètement différent. Il faut vraiment être passionné d'abord par la mécanique et par la moto. C'est vraiment important, parce qu'on a beaucoup de jeunes, c'est l'inverse.
S'il y a des jeunes qui sont intéressés, ils peuvent toujours te contacter. Alors on va donner des coordonnées.
Bon, je suis pas patron, hein. Mais ouais, ils peuvent nous appeler à la boutique, quoi.
Ok, on verra ça tout à l'heure.
Vous en voulez encore ?
Tremplin de la scène rock pour les jeunes talents de la région Nord-Pas-de-Calais, le Fessé Rock de Flénérage présente sa 3e édition.
Samedi 26 novembre 2011, 20h, salle des fêtes, place de l'Amérique. À l'affiche en première partie, les groupes Les Vénards et Project. En seconde partie, Matrage, sa nouvelle formation Socrate. Pour un prix d'entrée de 6€, parking gardé, restauration sur place assurée. Réservation conseillée dès le 31 octobre à la mairie de Flies ou au Temple du Disque à Douai. Toutes les infos sur le site www.festirock.eu.
Delta found a home on Chicago's deep south side. I'm going back to the windy city, going back to the nitty gritty, back to the south side sound where it all went down. I'm going back, going back. You walk down the back alley. Still hear those voices sing. Takes you back in time. Back when the blues was king. We're going back. Yeah, we're going back. You better leave it. The real home of the blues. South Michigan Avenue. Going back. Going back.
Vous êtes toujours sur Radio Campus, l'émission Kick un coup. Nous avons normalement Lamiche à nouveau au téléphone. Allô Lamiche ?
Oui, de retour à Cambrai. Bah, vous savez, ici ça parle aussi beaucoup mécanique, hein, parce que je vous écoute là, et Jérôme nous a parlé de mécanique, hein, aussi de diplôme. Et par contre ici aussi, bah, vous savez, on a affaire vraiment à des passionnés. Et puis on parle aussi motocross, on parle motocross de Neuilly le 10 juin. Et ça tombe bien parce que je suis avec le président du motoclub de Neuilly, Alain Deloge. Alain, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Alors Alain, d'abord on va parler de l'exposition. Tu présentes 4 ou 5 machines d'exception aujourd'hui ici à Cambrai.
Oui, on présente des CZ64, XR964, des 77 en Maiko, de la Suzuki 78, pareil, donc des très belles machines, mais en deux temps, on n'a pas amené d'anglaise 4 temps cette année, mais au motocross, il y en aura, ça c'est certain.
Alors, faut que tu me dises, c'est des machines qui ont marqué leur temps?
c'est les machines qui ont marqué leur temps. C'était pas le début du motocross, parce que le début du motocross c'était les machines anglaises, c'était les machines 4 temps, mais c'était la percée du 2 temps, quoi. Donc les années magiques, les années 60, hein, et les années 70 aussi, qui ont été des années également magiques. Donc on présente tout ça, et puis histoire d'annoncer le motocross et de faire le motocross fait revivre toutes ces machines.
Alors, est-ce que les grands pilotes ont gagné des courses avec ces fameuses machines?
Oui, bien sûr. La Suzuki que je présente, naturellement, c'est pas celle à Roger de Coster, mais de Coster a gagné sur ces mêmes modèles. Les Xarna, Benaberg, les Suédois, tout ça. L'Allemand Hans Mesch a gagné sur Maiko. C'était vraiment l'âge d'or du motocross.
Très bien, aussi l'événement majeur en 2012, c'est ce fameux motocross à l'ancienne, hein, avec justement ces machines. Hein. Donc ça va se passer le 10 juin, dis-nous un peu comment on va se préparer cette journée.
Alors cette journée, c'est comme d'habitude pour ceux qui connaissent, l'année dernière on a marqué le pas en faisant un entraînement officiel, mais cette année on repart de plus belle avec une course officielle, donc ça commence, c'est de 8h à 19h. Ce sont toutes les motos de 1960, même avant, jusqu'en 1980. Hein, donc ça se dispute en une quinzaine de manches, hein, donc 15 départs, 15 beaux départs, et les pilotes tournent pendant un quart d'heure. Il y aura environ 150 pilotes de toutes les nations. Des grands pilotes, oui, des grands pilotes, les Suédois, des Anglais qui tournent déjà bien. Oh, qu'ils ont de 70, et le plus vieux français aura 82 ans.
Chapeau.
Ouais, ouais. Il faut le faire parce que moi j'ai 57 ans et j'ai déjà des difficultés, donc chapeau à ce qu'ils font, c'est formidable.
Donc c'est une journée, c'est sur le week-end, mais on dit juin, il y a les préparations, je suppose, le week-end, le samedi.
Oui, bien sûr, le samedi, il y a un repas qui se fait le soir avec le cochon grillé, hein, c'est réputé, Neuilly, c'est réputé pour ça, mais il faut retenir parce que il y en a pas pour tout le monde. Et puis c'est tout, le lendemain on fait le pointage des pilotes et puis les courses commencent, comme dans les années 70, à l'américaine, et c'est ça qui est formidable, on vit une journée rock'n'roll et 70.
C'est vraiment, c'est pas des démonstrations, c'est vraiment des courses avec un classement. Comment ça se passe?
Alors ce sont des courses qui comptent pour la femme classique, donc il y a un classement championnat de France. Ça va se disputer en trois manches dans chaque série, plus si on a le temps, une super finale. Et en plus on va y adjoindre trois manches pour les pilotes du club qui veulent rouler en nouvelle. Donc là, il y a de la bagarre, il y a du sport, parce que ce sont des jeunes et ils me font même peur par moment. J'ai toujours peur de l'accident, et parce que ça roule fort. On a fait le coup d'essai l'année dernière et on revient cette année. Oui, quand on est jeune, on est un peu fou.
Ah mais là, il faut laisser la place aux jeunes, hein.
Oui, c'est vrai, mais bon, il faut faire attention quand même, parce que il faut éviter l'accident. Bon, mais jusqu'à maintenant, je touche du bois, ça s'est bien passé. Espérons que ça continuera.
Bon, alors Alain, quelques infos pratiques. Donc Neuvy, ça se situe où?
Alors Neuvy se situe entre Solesmes et Le Cateau, hein, donc dans un axe Valenciennes-Cambrai, Cambrai-Saint-Quentin. De toute manière, sur la carte, c'est facile à trouver, hein, c'est répertorié. Et puis, le prix de l'entrée, c'est 5 euros, boisson, restauration sur le terrain, et la prime au terrain, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, et espérons qu'on aura le temps avec nous. C'est surtout ça qui importe pour la réussite de l'organisation.
Bon, toujours aujourd'hui, comme on peut te voir aujourd'hui, hein, parce que tu as ton stand jusqu'à 17h, ici, à Cambrai, hein, au Palais des Grottes, si on veut discuter un peu, si on veut discuter avec toi sur ces machines, hein, sur ces pilotes que tu as connus, parce qu'il paraît que tu as connu du grand pilote aussi.
Oui, bien sûr, j'ai pratiqué le motocross pendant 25 ans, au plan régional et puis ensuite européen pour le prestige. Donc je connais pas mal de monde et c'est pour ça que j'arrive à avoir des pilotes connus, quoi. Donc on arrive à faire des belles courses et ça demande, il faut voir ça, il faut venir sur place et c'est formidable. Naturellement je suis sur le stand, celui qui veut des renseignements il passe et on lui donne ce qu'il faut, on lui donne le plan, on lui donne les affiches,
tout était disponible. Et je savais aussi que tu voulais faire un petit coucou à notre ami Guy Pilarvic, qui malheureusement a un petit problème physique.
Oui, j'ai appris ça. Alors bonjour Guy, et si tu... j'espère que tu ne souffres pas trop, et puis à bientôt.
Merci Alain, je vais te laisser retourner au stand. On se retrouvera certainement dans une émission en 2012.
Bien sûr, merci beaucoup.
Merci, au revoir. Bon, je vous laisse parce que je vois que l'heure tourne. Voilà, donc je vous donne rendez-vous après l'émission ici, hein, Cambrai, Palais des Grottes, hein, il y a une super ambiance, il y a du monde et puis c'est sympathique. Hein.
Merci la miche, on a noté le rendez-vous, on se verra tout à l'heure.
Et en plus, je note, hein, c'est gratuit, hein, entrée gratuite.
C'est vrai, il faut le souligner.
Il faut noter parce que c'est de plus en plus rare. Hein.
Tout à fait, à tout à l'heure la miche, merci.
Salut, au revoir.
Nous allons revenir dans le studio donc avec Jérôme, comme effectivement l'heure tourne. Je voulais te poser une question par rapport donc à ton expérience de tous tes Paris-Dakar, comme ça, de tous les rallyes auxquels tu as participé. Oui. Qu'est-ce qu'on en tire de ces manifestations-là, à la fois professionnellement et humainement? Qu'est-ce que ça peut apporter quand même, une expérience comme ça?
Humainement, déjà, c'est une expérience incroyable parce que c'est bon quand même la plus grande course du monde. C'est très enrichissant, quoi. On retient énormément de camaraderie, pardon, une aide d'équipe, quoi. Vraiment, on est tous dans la même galère, donc c'est même assez fort personnel, quoi. C'est très enrichissant personnellement.
T'as dû vivre des moments difficiles quand même.
Ah ouais, il y a des moments où parfois il y a des... C'est pas qu'en fait la mécanique, ça, c'est pas que de changer des pneus et faire des vidanges et nettoyer le filtraire. Hein. Il y a parfois de grosses rechutes qui entraînent des grosses pannes où il faut vraiment chercher longtemps. C'est difficile, c'est compliqué. Professionnellement, c'est.
En plus, il y a un stress parce que tu dois te dépêcher, c'est ça. Tu dois avoir un timing.
T'as un timing à respecter et puis tu ne peux pas te tromper, quoi. Ouais. Tu peux pas. Tu es obligé de faire repartir la machine le lendemain. Donc.
Mais t'as une deuxième machine en secours, en stock,
absolument pas. Non. On a un tas de pièces de réserve. Mais c'est non. C'est la machine. C'est la machine qui est passée au contrôle technique et administratif. Ouais. Donc ouais. on peut pas la changer. Ouais. Donc après, professionnellement, il y a des gens qui savent forcément que je fais des rallyes, donc on a du boulot qui vient en plus à l'atelier, hein, au magasin. Donc il n'y a pas si longtemps, justement, parce que sur les autres Dakar, j'avais fait la mécanique sur les quads de Can-Am. C'est directement le constructeur Can-Am qui avait demandé au gros team de Villedieu-les-Poêles d'entretenir les machines de leur pilote officiel. Donc on avait un champion chilien de quad cross qui avait participé. Donc il y a des gens, comme ils ont su que j'avais bossé sur les Can-Am, nous ont amené leur Can-Am en révision à la boutique. Donc ça amène forcément une notoriété, du boulot. Mais sinon, la course en elle-même, c'est personnel, quoi.
C'est une belle expérience humaine.
C'est une super
quoi.
Belle expérience. Mmh.
Tu nous donnes envie, hein. C'est vrai qu'on aurait envie d'y participer. Je vois que c'est le générique, nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Je crois, Jérôme, que tu voulais faire un petit coucou aussi.
Un petit coucou à Guy Pilarzik, bien sûr, et lui souhaiter vraiment un bon rétablissement. Et il devait être avec nous ce matin, notre franco-polonais spécialiste du tout-terrain. Bah, écoute Guy, bon rétablissement. Et pas trop de comédie, parce que je sais que tu aimes que ta femme te masse souvent le dos, mais n'exagère pas quand même. Quoi.
Ouais,
allez,
que...
bon rétablissement Guy, à bientôt.
Donc, t'as vu, tout le monde pense à toi quand même, c'est sympa, hein. Ça vaut le coup d'être malade. On t'apportera des chocolats peut-être cette semaine si ça va pas mieux. Sinon, on vous dit à dimanche prochain sur Radio Campus, le magazine de la moto avec Kikinko. Merci.
Au revoir à tout le monde.